Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International, dans notre studio pour vous parler aujourd'hui encore de football et vous tenir compagnie en cette fin d'après-midi. Nous commencerons par les Parisiens au chaud pour la fin d'année. En ramenant une victoire de Monaco, ils creusent l'écart en tête d'un championnat où ils sont invaincus. Sont-ils de plus en plus forts, ces Parisiens, plus que leur domination? C'est une affreuse semelle sur leur gardien Donnarumma, sorti le visage en sang, qui suscite aujourd'hui beaucoup de débats. Et en Italie aussi, nous dit notre correspondant Matteo Cioffi. Vous reprendrez bien une petite coupe, insatiable Real Madrid, qui a remporté hier soir le trophée intercontinental grâce à son trio Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Mais quelle valeur attribuer aujourd'hui à ce tournoi de fin d'année, tournoi dénaturé? Le foot canadien décrédibilisé pour ses pratiques d'espionnage. Grâce à des drones, les équipes nationales tentent de tout savoir sur leurs adversaires. La FIFA a sévi contre la sélection féminine, mais la pratique est apparemment ancienne. Nous en parlerons avec l'un des journalistes qui mène l'enquête au pays du soccer, ancien confrère ici à RFI, un certain Romain Chuet. Et dans ce studio aujourd'hui, un Parisien, hein, c'est logique. Bonjour Eric.
Oui, évidemment, bonjour Annie, bonjour
est-ce
à tous.
Est-ce qu'ils sont de plus en plus forts, vos Parisiens?
Ils sont intéressants, je pense qu'ils sont perfectibles, mais en tout cas ils sont bien pour l'instant. J'aime bien ce qu'ils me proposent.
Ça n'a pas l'air de vous emballer outre mesure, mais on va en parler.
Oh, c'est facile, hein. Je m'enflamme.
On va y revenir. Chef Guémour, notre ami de SoFoot, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Et puis alors un homme qui nous revient de loin, parce qu'il voyage, cet homme. Oui, les cheveux au vent, n'est-ce pas, hein? Bonjour Hervé Penaud.
Bonjour, quel plaisir. Alors j'étais au Maroc,
de Marrakech. La cérémonie de Marrakech.
Je me suis régalé, hein, et je dois vous dire que vous avez quand même des fans absolus, notamment Samir Bouzrara, le frère de Jalal, mm-hmm, qui est un éminent universitaire.
Jalal, lui, est un éminent.
Dont on connaît le frère, qui a présenté à la cérémonie des Café.
On attend le professeur dans le studio.
Et le professeur, donc, à l'université, spécialiste de Jean Genot, d'ailleurs, à l'université de Marrakech, vous écoute tous les soirs et vous adore.
De Manosque.
Et vous adore, voilà. Bon. Donc, je souhaite bonjour à tous mes amis marocains qui nous ont accueillis magnifiquement.
On les salue aussi. On a beaucoup d'amitié du côté du Maroc. Salut Diouf m'a aidé à préparer cette émission. Laurent Salerno est à la réalisation et merci à Olivier Pron, le monsieur qui vous a tenu compagnie ces jours-ci.
Achraf Hakimi en retrait, l'ouverture du score parisienne, c'est Désiré Doué qui profite de cette montée. Alexander Golovin qui peut envoyer ce ballon dans l'espace libre à Klinouche qui en prend. Oh, il a réussi à lui mettre son pied. Attention à la réaction, cette frappe et l'égalisation au ballon repris par Dembélé. Paris reparti de l'avant. Dembélé qui pique ce ballon. Ça finit dans le cadre. Ça fait 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Et puis il a pris des vitesses. Wilfried Tsingo, il vient sceller le succès du Paris Saint-Germain au bout du temps additionnel.
Des Parisiens en grande forme, ils ont un peu plus creusé l'écart hier soir en tête du championnat de France en s'imposant sur la pelouse du stade Louis II. Les Monégasques n'ont pas tenu la distance après avoir mené pourtant au score, mais ils ont été battus 4-2 donc. Avant de revenir sur le contenu de cette rencontre, arrêt quand même et arrêt sur image, celle de Gigi Donnarumma sorti à la 22e minute, le visage en sang.
Tsingo en jeu, la couverture en plein axe de Marquinhos et Tsingo veut apporter le danger, la mauvaise conduite de balle, il vient buter sur Donnarumma.
Ouais, il a touché Donnarumma au visage sans faire exprès Tsingo. Il a voulu aller fixer, je pense qu'il a voulu aller conclure, il a un peu trop poussé son ballon.
Il voulait le piquer, non? On a eu l'impression.
Ouais, mais c'est dommage pour Monaco parce que ouais, il voulait piquer mais il a tapé dans la terre. Oh là là,
il demande le changement. Hein.
Pas de carton contre celui qui a fait cette semaine, l'Ivoirien champion d'Afrique, Wilfried Tsingo. De quoi énerver les Parisiens Alors peut-être Eric, mais surtout, il y avait le capitaine Marquinhos, pas très content en fin de match. Et ici, le buteur, Gonçalo Ramos.
Je pense que tout le monde a vu son visage. Je ne sais pas comment c'est possible que ce ne soit pas un carton rouge. L'arbitre a un seul travail, c'est de protéger les joueurs. Et ce n'est pas moi ou les joueurs qui le disons. Ils nous l'ont dit au début de saison, qu'ils devaient protéger les joueurs. Et aujourd'hui, ils n'ont pas protégé Donnarumma.
Pas de protection ou protection du joueur. Alors, carton ou pas carton, je vais me tourner vers l'homme qui adore d'abord qu'on parle d'arbitrage. Il s'appelle Chérif Guémourde.
D'ailleurs, il préfère les arbitres plutôt que les joueurs.
Chérif, que dire de la décision de l'arbitre numéro 1 français, François Le Texier ? Je sais que vous n'aimez pas. On n'aime pas en général revenir sur les décisions d'arbitrage, mais là, en l'occurrence...
Oui, non. Mais quand un arbitre n'a pas été bon ou qu'il a fait une erreur manifeste et tout, il faut le dire aussi. Moi, je défends pas les arbitres quand ils sont dans l'erreur. Non, manifestement, on voit que Singo va au bout de son action. Il s'arrête pas, il fonce. Il n'y a pas de mouvement d'arrêt ou d'évitement. Petite parenthèse, cette action nous rappelle quand même que pour être gardien de but, il faut un sacré courage. On oublie souvent que quand les gardiens se couchent, ils prennent des coups en passant dans les côtes, au cou, au crâne.
Énormément.
Et donc...
il faut être très courageux pour se jeter dans les pieds des autres et aller chercher un ballon. Ça, on ne dit pas assez.
Carton rouge direct. Mmh. Voilà,
alors Eric, vous le joueur, parce que finalement la photo, alors quand on réduit la photo, le focus, un pied et le visage de Donnarumma, c'est extrêmement impressionnant. Quand on voit le déroulé de l'action, on a l'impression que peut-être qu'il s'attendait à ce qu'il se couche totalement vers le ballon finalement, le joueur, et qu'il voulait l'enjamber clairement.
Moi je pense pas. Moi je vais vous dire comment j'interprète un petit peu cette action. Singo va donc, maîtrise pas sa touche de balle qui arrive juste, mais il a quand même de l'avance pour faire un choix, c'est-à-dire frapper, ou qu'il fait mal. Et derrière, sachant que Donnarumma arrive, met le pied en avant. Et moi, c'est ça que je sanctionne dans le. Je dis pas qu'il a fait exprès, il a pas fait exprès, évidemment, personne va dire qu'il a fait exprès. Et quelque part, on s'en fout en fait, qu'il ait fait exprès ou pas. Non, mais c'est vrai, parce que à la fin, ça finit sur le visage du gardien qui va se retrouver avec plus de 11 agrafes ou je ne sais plus combien d'agrafes il avait sur le truc.
C'est 12 points de suture.
Et donc, l'action se finit comme ça. Au départ, je vais vous dire, hier, j'ai commenté le match. Au départ, je dis pourquoi M. Brizard n'appelle pas M. Le Texier pour aller voir l'image. Déjà, aller voir l'image et se rendre compte de ce qui s'est passé.
C'est combien ? 5 arbitres maintenant, le corps arbitral.
Bien sûr. Et je peux comprendre que ça se passe vite, t'es mal placé, ou il y a un joueur qui passe au moment où t'es en train de regarder, tu vois pas, tu vois. Au départ, c'était ça. Je me suis dit, au départ, c'est ça, je ne comprends pas pourquoi. On va pas vérifier l'image et tout ça. Mais après, ce matin en repensant à tout ça, je me dis... Mais en fait, t'as juste à regarder la tête de Donnarumma et tu dois sortir le rouge direct. Non, mais ça, t'as pas besoin, en fait, quelque part.
C'est ça le plus important, parce que les arbitres, souvent, enfin, dernièrement, on leur a dit, quand il y a une faute, attendez un peu, voir si le joueur se relève. Et en effet, des fois, le joueur se relève pas. Et là, c'est carton rouge direct. S'il a commencé par un jaune. Là, comme tu dis... Tu vois,
là,
la tête
y a zéro
de Donnarumma,
c'est encore pire.
Ce qui est très étonnant.
Juste un détail, oui, c'est que Singo avait déjà un carton jaune à ce moment-là du match.
C'est ce que
mais je le signale. C'est-à-dire, le deuxième aurait signifié exclusion du match.
Éventuellement
ou un carton rouge direct.
Éventuellement un deuxième jaune.
Non, mais c'est pour ça que cette décision n'a aucun sens. Alors là, on parle en plus du meilleur arbitre français qui, en Coupe d'Europe, fait toujours des grosses performances. C'est-à-dire qu'il a toujours des grosses performances, il n'y a absolument rien à dire. Il est passé à travers de son match, tout simplement.
Oui, parce que même la suite. Dans certaines décisions, il est perdu.
Hervé, j'ai une question. C'est une des explications lues ou entendues, en l'occurrence lues et entendues, de Nabil Djellit, notre ami ici à Radio Foot, qui disait « Est-ce que ce n'est pas aussi directement lié à ce fameux match OM-PSG où il avait exclu extrêmement rapidement, je crois que c'est la deuxième minute, Harit ?»
Non, Harit. Peut-être pas la deuxième minute.
Non, mais juste, je termine. Et où on lui aurait reproché d'avoir un peu fichu en l'air le Classico sur cette décision. Et est-ce que là, du coup, il n'a pas été un peu influencé ?
Les gens qui lui ont reproché.
C'est la question. Hein,
oui, non, c'est la question. Les gens qui lui ont reproché sont des gens du foot, mais pas les arbitres.
Sont tous marseillais.
Ouais. Mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens extérieurs, d'une certaine manière, au football, je veux dire, par rapport à l'arbitrage. Mais, du côté des arbitres, ils ont toujours considéré que c'était la bonne décision. Donc lui, et moi je pense que c'était la bonne décision à l'époque, évidemment, parce qu'on ne voyait pas, au fait, au départ, on n'a pas vu toutes les images. Et il y en a une finalement qu'on a vu, on dit, ah ben oui, il lui met vraiment le pied comme ça, et il lui fait mal au niveau du torse. Donc l'expulsion, pour moi, il n'y avait pas de doute. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lui, vis-à-vis, évidemment, de l'arbitrage, qui est quand même c'est son employeur, hein, c'est eux qui décident de le noter à la fin de la saison, il avait eu raison. Maintenant, on ne peut pas nier qu'on peut être impacté psychologiquement par tout ce qu'on a entendu. Lui aussi a écouté les débats, lui aussi s'est fait peut-être dans la rue
embêté. Parce qu'il a ruiné un classico.
Voilà, exactement. Les gens disent il a ruiné un classico. Donc peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, c'est un élément qu'on peut prendre en considération et qui existe peut-être. Il s'est dit, il y a cette petite musique, mais alors, à ce moment-là, vous avez le VAR. C'est relativement simple. En plus, comme le dit très bien,
la vidéo.
Aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de vidéo. Vous regardez le visage de Donnarumma. Hein, et Eric a tout à fait raison. C'est très simple. C'est
un
très
joueur
simple.
Blessé qui ne se relève pas, c'est que c'est rouge.
Rappelons-nous qu'il avait dit ça pour Harit. Hein. Il avait dit pour Harit, regardez Marquinhos. Donc là, il suffisait de dire, regardez le visage.
Mais en plus, Harit, c'est pas pareil. Parce que Harit, Dans son action, il voit pas arriver Marquinhos. Oui. Donc, on se pose même pas la question de savoir s'il a fait exprès, il a pas fait exprès, il l'a pas vu arriver, il a mis le pied.
C'est dangereux.
Donc là, dans le même esprit, je me dis mais là, il a pas fait exprès, sauf qu'il le voit arriver. Il met son pied en avant et après, il finit dans la figure. Il l'avait pas choisi de finir dans la figure, mais il n'empêche qu'il finit dans la figure. Et le mec, il saigne comme je sais pas quoi. Mais donc, ça fait déjà assez de paramètres qui font que la décision elle vient naturellement. Mais encore pire. Comme tu disais, il a déjà un jaune, donc t'as même pas besoin de mettre un rouge, t'as juste à mettre un jaune, c'est normal en fait.
Ce qui est assez hallucinant, c'est comment personne ne lui a dit à un
moment. Je te jure, c'est ça, je ne comprends pas.
Je n'arrive pas à comprendre, parce qu'on parle vraiment d'un très très bon arbitre qui est très expérimenté.
Parce que Hervé, Donnarumma se relève. Alors évidemment, il a moché, il ne peut pas reprendre, on est bien d'accord, mais il se relève.
Il sort.
Non, mais évidemment.
Il est remplacé. Ouais,
il se relève.
Non, mais donc il a le temps de lui mettre un carton jaune.
Peut-être que ça a joué aussi. Il se relève, c'est pas grave. Bon, il a le visage un peu ensanglanté, mais ça va aller.
Et le pire, c'est que
l'avocat du diable.
J'entends bien. Mais tu te rends compte quand même que les arbitres sont quand même capables de mettre un carton jaune sur un mec qui tire un maillot où il y a anti-jeu, évidemment, mais il n'y a rien d'agressif, il n'y a rien de mal, en fait, quelque part, et tout ça. Et que là, même sur une action comme ça, qui est démentielle, il n'a pas été capable de mettre juste un jaune. Au pire, tu lui mets un jaune, personne ne t'en veut parce que tu ne l'as pas expulsé directement, il est expulsé parce qu'il a pris son autre jaune d'avant. Donc déjà, c'est normal, en fait, quelque part, dans le déroulement du match. Et t'as pris une décision. Mais là, tu prends pas de décision. Et là, derrière son match, en fait, il a saboté son match comme ça parce que derrière, il fait n'importe quoi. En fait.
Et d'ailleurs, c'est très drôle.
Le déstabiliser aussi, lui, l'arbitre, parce qu'on voit dans la suite
parce qu'on
du
voit,
match.
On voit, regarde, on voit, à la mi-temps, on voit Donnarumma, qui n'est pas encore parti, il va pas voir Sengo, il va voir l'arbitre. Parce que c'est là où il se dit, mais tu ne m'as pas protégé, en fait, dans l'action.
Et d'ailleurs, à la fin du match, on voit des images de Sengo qui va voir.
Alors, ça a été divulgué ce matin par le Paris Saint-Germain. Ouais. Alors, après que ces joueurs aient râlé, est-ce qu'il y avait un désir de la part du Paris Saint-Germain de calmer un peu les choses.
C'est la protection.
Parce que les images, c'est Sengo. Alors, Donnarumma est à l'entrée du vestiaire, enfin, dans la sortie du match. Là, tout le monde va lui serrer la main. Et à un moment, Sengo va s'excuse entre tant Donnarumma a plus de sang sur le visage, hein, puisque c'est la fin du match. Et il lui dit en italien « tranquillo ». Donc, bon.
On peut dire qu'il est classe, déjà. Ça veut dire que Donnarumma est très classe.
Très classe. Mais c'est en Italie. Alors là, tout le monde est choqué. Et alors, je suis désolée, Hervé, vous le disiez à vos copains quand même, mais je crois que le titre aujourd'hui
j'ai compris,
de l'équipe a quand même...
J'ai compris.
Ils ont toujours des bons... Ouais. Moi, je trouve ça bon.
Alors, mauvais goût, maladroit, je ne sais pas. Alors, le titre...
Non, ça va, franchement.
Malheureux.
Non, je te jure. Moi, ça me fait rire parce que... Il y a toujours une
consonance.
Attendez,
je vais le dire à nos auditeurs quel est le titre. Mais aujourd'hui, en pleine une du journal L'Équipe, on a une photo des buteurs, heureux d'ailleurs. On voit que des gens qui rigolent. Hein. On n'aperçoit pas du tout Donnarumma. Et il y a marqué leur meilleur visage.
C'est après le but. Oui, c'était un rapport avec...
On a bien compris.
Et comme on voit Donnarumma rigole, et comme on voit Donnarumma rigole après dans le vestiaire...
Ah non, mais ça, ils ne le savaient pas encore.
S'il y avait eu des conséquences...
Il ne le savait pas encore en faisant le titre. Et le titre, il doit après être fait dans les couloirs du stade Louis II.
Oui, c'est plutôt en rapport avec ce qui s'était passé. D'une certaine manière, on avait les deux actions. À la fois un bon Paris Saint-Germain et puis ce qui s'était passé. Malheureusement.
Ça fait rire, Eric. Vous aussi, oui. Bon, non, vous trouvez ouais, ça maladroit ou mauvais goût.
En plus, ils ont déjà fait pire que ça. L'équipe sur d'autres trucs, sur voilà, d'autres jeux de mots.
Ouais, tragique,
il y a de l'esprit.
En tout cas, il va falloir se déguiser beaucoup pour qu'on ne le reconnaisse pas sous son déguisement de Père Noël, non, cette année. Là, les enfants, je pense qu'ils vont se dire, mais c'est papa.
Et juste une petite chose quand même sur l'histoire de Donnarumma. On parlait par rapport à Le Texier. C'est qu'après... C'est pour ça que Le Texier n'était certainement pas dans un bon jour, ah, voilà. Parce qu'il a l'occasion de sortir Singo 10 minutes plus tard sur une action, je ne sais plus sur quel encore. Joueur, il y va, il y monte à l'épaule, il explose complètement dans le dos. Exactement. Donc là, n'importe quel arbitre aurait mis jaune. Mmh. Il ne m'a même pas mis jaune. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'il n'a même pas
il
eu conscience.
Déraillé, il est traqué par rapport
à... Il n'avait pas conscience de l'erreur qu'il avait faite.
Pensez-vous qu'il sera suspendu le week-end prochain?
J'espère. J'espère, parce qu'il faut aussi qu'il y ait Le Texier.
Le Texier.
Ah, oui,
c'est non, pas... mais après, moi, je
c'est
moi,
ce
je
que
pense,
disent les commissions d'arbitres, sans
moi,
même être
Singo, je pense à Singo. Non, mais je suis désolé, mais...
Je pense pas.
Dans l'esprit, quand il y a des choses que tu vois pas.
Qui le suspendrait, qui lui dirait
pas
jouer.
Je sais pas. À titre symbolique, par rapport à la dangerosité de l'action.
Même Donnarumma, sous son meilleur visage, l'a pardonné.
Si, Singo peut être...
Moi, je pensais, franchement, que... Non, pas par son club, par l'instance des arbitres.
C'est par la commission.
En estimant que ça voudrait dire que tu avoues que ton arbitre il a fait une faute. Non, mais un peu de mal à ça.
Il faudrait qu'il y ait eu une lettre de l'arbitre aussi, dire qu'il a fait une erreur. Pas certain que M. Le Texier dise qu'il a fait une erreur.
Bon, M. Le Texier qui est huissier. Donc il a l'habitude des formes.
Ah, je ne savais pas qu'il était huissier.
Oui, bien sûr, il est huissier.
Après, c'est une charge de défenseur.
Il est venu chez toi,
attaquant, huissier.
Non, mais c'était peut-être lui.
Huissier de justice, bien sûr. Bon, en tout cas, Singo a poursuivi donc le match. Gigi, lui, était remplacé par Safonov et les Parisiens ont donc gagné. Peut-on dire qu'ils sont allés quand même la chercher, cette victoire, et que c'est une équipe qui joue de mieux en mieux, Eric?
Alors, je ne sais pas si elle joue de mieux en mieux. Moi, je trouve déjà qu'elle joue bien et que j'aime bien ce qu'elle
propose. Ils sont allés la chercher, cette victoire,
c'est vrai.
À la 60e minute, ils étaient menés
La réaction derrière. C'est-à-dire qu'ils sont capables de reposer du jeu, de reproposer du jeu et de marquer ce but très vite derrière. Parce que ça arrivait quand même pas si longtemps derrière. Donc, il marque un très beau but, d'ailleurs, de Doué, sur une action d'Hakimi aussi. Donc, un bon enchaînement. Après, il y a deux périodes. Après, ils reviennent de la mi-temps, où ils ont vu Donnarumma, donc sa tête, donc ils reviennent, où j'ai l'impression qu'ils sont un peu...
calmés.
À l'ouest, et un peu... Je sais pas si ça les a refroidis un peu, cette action... Mais de voir Donnarumma. Et ils sont revenus, ils ont un quart d'heure catastrophique où ils passent au travers complètement. Marquinhos, il est complètement... Alors, je sais que c'est un mec sensible, donc peut-être que c'est vraiment ça aussi.
Peut-être que
de voir Donnarumma comme ça, ça l'a peut-être un peu déstabilisé.
Il pleure pas, lui.
Mais ils ont quand même cette capacité à revenir dans le, quand ils remettent le 2 et après derrière enchaîner pour en mettre 3 quand même, parce qu'ils en mettent 3 derrière. Donc, je pense qu'il y a quand même eu deux aspects. Un moment où ils sombrent et après, ils sont capables, avec le caractère, de revenir. Donc, j'ai bien aimé le... Est-ce que c'est suffisant pour dire qu'ils vont faire ça tout le temps? En tout cas, là, c'était bien.
Chérif, ce Paris Saint-Germain, finalement, et on en parlait tout à l'heure avant l'émission, il nous inquiète un peu ou il nous interroge beaucoup plus. Parce que, finalement, en Ligue 1, on a l'impression qu'ils dominent. Ils sont invaincus à cette heure en championnat. Ils sont largement en tête, même si toutes les autres équipes pratiquement ont un match en moins. En tout cas, il y a à cette heure 10 points d'avance sur le deuxième, qu'est l'OM. Mmh. Est-ce qu'il joue de mieux en mieux selon vous? Est-ce que notamment le retour de Ramos fait du bien?
Oui, alors moi, comment s'appelle, je suis d'accord.
Le vrai neuf.
Ouais, je suis d'accord avec l'équipe de ce matin. La première partie de saison en Ligue 1, de Luis Enrique avec le PSG est bonne. C'est une vraie réussite. On va abandonner l'idée du PSG d'avant avec des stars, des méga salaires, un spectacle chatoyant et tout. C'est fini, on est passé à autre chose. C'est une équipe jeune, sans stars, avec pas énormément d'internationaux, même si évidemment...
Oui, non, mais je vous parle de l'équipe en ce moment-là. Est-ce que celle qu'on voit apparaître avec les retours, avec Doué, parce que Barcola disparaît un peu, Colomouani, n'en parlons pas...
Alors, justement, comment dire, ce qui est très très important pour les entraîneurs, c'est qu'il y a un début d'émulation, c'est-à-dire que, en fait, sur les fondamentaux, les joueurs n'ont pas cédé. Ce que j'aime, c'est que les joueurs courent, font un pressing haut, s'encouragent. Tu l'as dit, Rabé, quand ça va mal en deuxième mi-temps, il retrouve de l'allant pour finir très très fort. Donc pour moi, c'est une équipe qui est en progrès. Ramos revient au bon moment, il était temps. Doué, que j'avais enterré, revient. Fabian Luiz, qui m'avait énormément déçu depuis le début de saison parce qu'il a souvent été titulaire, il a fait un bon match hier. En fait, tout s'annonce bien voilà, pour ce qu'on attend, ouais. C'est-à-dire pour le mois de janvier, avec les matchs de Ligue
fin
des Champions.
Janvier.
Et là, ça va être le test.
Et c'est deux matchs qui, voilà. Où ils seront jugés et où ils pourront ou pas poursuivre l'aventure. Hervé. Voilà.
Oui, alors là, Chérif, il dit qu'il n'y a que des internationaux quasiment dans cette équipe.
Oui.
Il n'y a que ça.
Pas non. Des grands internationaux.
Ah, tu veux dire des grands, c'est-à-dire des... Ah, ça reste quand même... Bon, simplement, c'est effectif. Et là, je suis un petit peu moins d'accord sur l'idée, par exemple, que... On ne changera pas déjà les salaires. Je pense que les salaires sont énormes au Paris Saint-Germain. Tu parlais des salaires qui étaient un peu moins. Donc je pense que même des joueurs moyens touchent des sommes assez
on
phénoménales.
On ne parle pas de Messi,
même
Neymar.
Les transferts,
on n'est pas sur Messi, Neymar, Mbappé, ça c'est évident. Mais, et les transferts, de toute façon, sont déjà très très chers. Mais vous savez, si ça ne se passe pas si bien que ça en janvier, voire un petit peu plus tard, hein, sur des barrages de Ligue des Champions, la politique, elle va être vite revue. Hein. Ils vont chercher des joueurs qui peuvent leur donner quelque chose. Et puis on ne sait même pas quid de l'avenir de Luis Enrique, parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'embrasse sur la bouche. Rappelons-nous quand même, Laurent Blanc, après la qualification contre Chelsea en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, il est prolongé par le Paris Saint-Germain. Deux semaines ou
oui,
trois semaines plus tard.
C'est leur habitude. Voilà, ils prolongent les gens
ils sont battus
avant de
par
voir les
Manchester
résultats.
City et puis c'était fini. Donc, mais sur l'équipe elle-même, n'oublions pas quand même que vous avez un Monaco qui est totalement à la rue en ce moment.
Mais oui,
c'est
voilà.
C'est à un moment, il faut voir
une
aussi l'adversité.
Une victoire sur les six derniers matchs.
Une victoire sur les six derniers matchs. Alors, on parle
non,
quand même
surtout,
d'un candidat au titre.
Ils sont... Oui,
on parlait.
Exactement. On a cru.
Ils ont battu l'OM à l'OM, ils ont battu Lyon, les grosses équipes, et les ont tapés. Hein.
Mais c'est une équipe
moi,
c'est, qui...
Pour moi, c'était l'équipe qui était la plus à même de poser des problèmes au Paris Saint-Germain.
Non, mais même hier, en Ligue des Champions, ils ont été très intéressants, Monaco. Et là, ils sont en passe, eux aussi, dangereuses,
mais
on va dire.
Le problème, vous savez, c'est une équipe Monaco... Oui, alors, on va parler de Paris Saint-Germain, mais juste expliquer quand même que
non,
Monaco...
Non, mais parlons de Monaco.
Monaco, il n'y a que des jeunes joueurs qui enchaînent les matchs Coupe
plus
d'Europe.
Plus jeunes qu'au PSG.
Ils sont très fatigués.
On Zakaria. Prend le...
Voilà, Zakaria blessé. Ben Seguir, Akliou, je ne peux pas tout faire. Ils n'ont pas d'attaquant. Quand vous aviez Ben Yedder à une époque qui marquait but sur but, ah, ça change tout. Parce que le jeu offensif que prône Hütter, bah, inévitablement, si vous avez quelqu'un qui met la balle au fond, ça change radicalement le sens des résultats.
Tout
aujourd'hui,
fait.
Vous avez beaucoup plus de difficultés pour marquer en ayant un jeu très offensif.
Surtout,
donc,
ils
Paris
encaissent beaucoup de buts.
Bah, voilà. Donc après, vous encaissez. Bah, donc de
c'est
fait, et puis, ils n'ont jamais eu quand même un gardien très sûr. Ça fait comme des années que chaque fois qu'ils mettent quelqu'un dans les buts.
Il était pas mal hier.
Oui, c'est vrai. Mais il prend deux buts.
Ah, mais
l'équipe,
pas mal.
Hein, c'est-à-dire qu'il a fait des arrêts, mais il a des buts. Quand on est gardien, souvent on dit qu'il faut éviter les erreurs, mais il y a deux buts qui ne sont pas terribles.
Monaco, troisième, mais effectivement, on a la sensation qu'il perd.
Monaco.
Bah oui, beaucoup
belle
trop
équipe,
irrégulier. Oui, beaucoup trop irrégulier. On continue dans Radio Foot International. Un petit crochet avec les merengue.
Bellingham acelera con Vini, está buena Vinicius, el remate, la bicicleta de Vini, lo que ha hecho Vini, la pone para Kylian.
Magnifique, Vinicius offre ce but à Kylian Mbappé. Le Real Madrid réveille cette coupe intercontinentale. Et bien 1-0.
Pour le Real, les trois attaquants ont marqué, donc Mbappé, Rodrigo et Vinicius sur penalty.
Real Madrid, champion de la Intercontinental 3, Pachuca 0.
La Coupe Intercontinentale pour le Real Madrid et deuxième titre de la saison après la Super Coupe d'Europe.
Et à la fin, c'est le Real Madrid qui gagne, bien mais sûr. Ouais. Qui aurait imaginé d'ailleurs que cette finale échappe au merengue face aux joueurs de Pachuca, le club mexicain, certes vainqueur de la Ligue donc des champions nord-américaines, qui avait éliminé les champions sud-américains, brésiliens de Botafogo et puis ceux d'Afrique avec Al Ahly du Caire. Alors face à l'insatiable Real, on a du mal. Et d'ailleurs, pour Carlo Ancelotti, il le dit, c'est quand même facile de gagner avec le Real.
Pour être honnête, gagner des titres avec le Real Madrid est un peu plus simple qu'ailleurs. Nous avons un club fantastique, de grands supporters, les meilleurs joueurs du monde. Il est donc plus facile de gagner des titres ici, mais je ne dis pas que gagner des titres est une chose facile.
Alors une chose plus facile, évidemment, quand on a un effectif, même quand on a Mbappé, Bellingham et tous ceux qui ne sont pas super en forme parfois, ça marche quand même mieux. Sauf qu'en fait, ce Real a été parachuté en finale pour être vainqueur, pour être le vainqueur de la Ligue des Champions. Ça lui donnait droit à arriver directement en finale, et évidemment pour faire briller la compétition. Mais surtout, rappelons-nous, c'est parce que cette Coupe intercontinentale, tout d'un coup, elle s'appelle intercontinentale. Il y a eu il y a longtemps une Coupe intercontinentale, mais c'est parce que ça revient. Parce qu'avant, on l'appelait le Mondial des clubs, mais que le Mondial des clubs est passé à l'été prochain avec 32 équipes. Bref.
Et
donc, on s'est dit, allez, les Européens, on les fait rentrer directement. Eric, vous vous interrogez sur ça, effectivement. C'est-à-dire, Botafogo, champion d'Amérique du Sud,
c'est eux qu'on attendait. On attendait
une finale et ils se font sécher. Alors, on le sait, deux jours après leur victoire en... Trois jours après leur victoire en championnat et le fait d'être sacré champion, ils font 17 heures d'avion parce qu'ils passent quand même de Rio à Doha.
Exactement.
Et donc, Chérif, quelle valeur accorder à ce titre ?
Alors, donc déjà, il y a le problème que pose évidemment...
Ils jouent que la finale. Botafogo arrive en quart.
C'est assez gênant.
Voilà. On s'attendait tous à Botafogo. Bon, malheureusement, le niveau du calendrier... entre la
Libertadores,
la fin du championnat qu'ils
ont gagné.
Et voilà, moi, je me disais comment ils vont s'en sortir.
Il y avait une finale de trop, là.
Et là, on aura une super finale, le Real Botafogo, parce que le Real a un peu souffert contre Pachuca hier soir.
Au début.
Alors maintenant, la valeur... déjà, c'est un peu bizarre, parce que maintenant, il va y avoir...
Ils s'en grattent la tête.
Mais après, quand même, c'est une compétition. Est-ce qu'elle est dévaluée ? Quand on est le Real, non, ça fait un titre de plus.
La coupe est jolie.
Des grandes équipes comme le Boca Junior, n'oubliez pas, ils mettent une étoile à chaque titre international.
Et ils en ont gagné avec Carlos Bianchi.
Carlos Bianchi, évidemment.
Mm-hmm. Il tapait le Real.
Ouais. Mais comment dire, nous, en tant que Français, comme on ne l'a jamais gagné, on se dit, ça aurait été bien de l'avoir gagné une fois. Malheureusement, bon, on sait ce qui s'est passé avec Marseille et tout ça, avec Paris qui n'a pas joué qui s'était tapé par la Juventus pour la finale de la Super Coupe d'Europe.
Parce que c'est leur deuxième titre et le cinquième de l'année.
Il n'y a aucun doute que des équipes comme Dortmund, l'Ajax, qui ont joué ces finales dans le passé, jouer ces finales et les gagner, c'est quelque chose de super important.
Pour
Manchester City, qui ne l'avait jamais gagné.
Non, mais je vous parle aujourd'hui.
Elle a toujours une valeur, mais quand c'est le Real, on est blasé, c'est tout.
Est-ce que c'est la seule raison ? Parce que Hervé, ils arrivent en finale, parachutés en finale, donc ça facilite.
C'est un peu ennuyeux, parce qu'à une époque, c'était en demi-finale. Donc on avait la possibilité de faire un match de plus.
Et même les Sud-Américains arrivaient en demi-finale.
Oui, absolument. Le problème, en fait, c'est que je pense que du côté du Real Madrid, on a dit aussi, on a quand même beaucoup de matchs.
La déclaration d'Ancelotti,
ça veut tout dire.
Elle dit pas mal
donc
de choses.
On sait qu'il y a quand même une Coupe du Monde des clubs à la fin de saison, donc on n'allait pas leur rajouter deux ou trois matchs encore.
Ça a été ça,
et comme on sait que l'emblème de cette Coupe du Monde, j'allais dire Coupe du Monde des clubs, j'ai gardé l'appellation, c'est le Real Madrid, tout simplement. C'est pas Botafogo, c'est pas Al-Ahly, c'est pas malheureusement.
Ils l'ont gagné incalculable de fois.
Et mine de rien, parce que c'est ça au final qu'on va retenir dans l'histoire du football. Quand vous regarderez le palmarès un jour 2024, vous verrez Real Madrid, direz pas, ils ont joué un match, deux matchs. Les autres, Botafogo est venu après 17 heures d'avion, ils avaient des joueurs cramés, etc.
Ça reste prestigieux.
Est-ce que le trio d'attaque vous a plu, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Eric?
C'est la valeur ajoutée, la valeur sûre, pardon, du Real Madrid. Mais en dehors de ça. Moi, je veux revenir sur ce qu'on disait par rapport à l'avantage qu'a le Real. C'est quand même pas normal tu peux être le Real, tu peux être n'importe qui, parce que si jamais ça change et que c'est pas le Real, est-ce qu'on va changer la façon de procéder ?
Pas le Real, dans quel sens ? D'arriver en finale directement ?
Parachuter.
Manchester City, par exemple.
Si ça avait été, Manchester City, aujourd'hui, oui, mais je veux dire. Est-ce que tu peux donner de l'importance à cette compétition en procédant comme ça pour l'équipe de européenne qui arrive pour jouer ce... Parce qu'à l'époque, tu disais, ils arrivaient en demi-finale. Quand les deux arrivent au même niveau, tu donnes de la valeur à la compétition parce que tu respectes.
Une année, le Sud-Américain, on était au Maroc, se fait éliminer par le Raja de Casablanca et ça sera Bayern, Raja de Casablanca, la finale.
C'est ça qui donne de l'importance.
C'était un mini-tournoi, tout d'un coup. Chérif, alors vous, sur le trio d'attaquants,
Bah, comment dire,
ça tourne, ça, il commence à se trouver, il commence à s'améliorer tous les trois.
Oui, et puis il y avait Bellingham derrière, donc c'est une équipe qui penche comment dire, beaucoup vers l'avant avec ces joueurs-là. Je pense que c'était exceptionnel parce que c'était une finale et puis qu'ils savaient qu'ils avaient comment ça s'appelle, un certain... petite supériorité par rapport à Pachuca.
Ne serait-ce que psychologique, hein, quand on a
mais après, quand on voit les trois magnifiques plus Bellingham, c'est une équipe qui penche beaucoup trop vers l'avant et on a vu qu'elle est encore déséquilibrée. Ils ont subi pas mal d'actions. Donc, c'était un beau match de gala, une belle attaque de gala, mais je ne crois pas qu'elle va être...
On rappelle que Mbappé revenait de blessure et qu'il avait eu un peu plus de temps de récupération pour aussi...
C'était une bonne idée de l'aligner au niveau du mental et du
dynamique. Ouais,
et d'ailleurs, c'est la deuxième coupe, deuxième trophée international que lui remporte avec le Real.
Pour lui, c'est important parce qu'il a toujours dit « je veux aller au Real aussi pour gagner des titres ». Et pour lui, une Coupe du Monde des clubs, c'est pas rien. C'est vraiment dans un palmarès.
Et la Super Coupe d'Europe.
Oui, la Super Coupe d'Europe. Et donc, il marque un but. Très important aussi pour lui, parce qu'on sait qu'il est dans une difficulté.
Après, on le dit dans cette... Parce que c'est vrai qu'il ne fait pas... Mais en termes de but et de ratio but, il est bien.
Il est dans les clous.
Comme au PSG. Hein.
Mais je pense pas que ce soit...
Même s'il envoie dans son...
Ce qui est surprenant, c'est qu'ils ont tous été blessés et ils reviennent très, très vite. J'étais épaté. Ah. Rodrigo, Vinicius et Mbappé. Blessé
sans passer par l'Allemagne.
En Espagne,
il y a des laboratoires.
Mais c'est vrai aussi qu'une finale, ça peut vous appâter et vous remettre en forme plus vite que prévu.
Évidemment.
Et vous, on l'a tous vu, Kylian a marqué, n'est-ce pas? Écoutez.
Avec Adrien Rabiot dans la partie de terrain argentine. Mbappé vers Thuram, attention, Mbappé la frappe.
Je vous avais dit.
Le doublé de Mbappé, incroyable.
Je vous avais dit,
c'est le football, messieurs.
Vous vous souvenez, Eric?
C'est la finale de Coupe du Monde, non?
Oui, alors si on passe ça, pourquoi? Eh bien, simplement, et ce qui est drôle, ce qui nous a amusé, c'est qu'hier soir, on était le 18 décembre 2022. Et qu'on était c'est pas fini, et qu'on était dans le stade de Lusail de Doha à Dakar, et c'est-à-dire qu'on était sur la même pelouse qu'il y a 2 ans jour pour jour le soir de la finale France-Argentine de Coupe du Monde.
Donc il a mis 3 buts alors finalement. Plus le pénalty en plus
c'est pas mal.
C'est
pour ça qu'il a marqué d'ailleurs vraisemblablement.
C'est drôle.
En tout cas, c'était un petit clin d'œil quand même à ce grand moment du football, non ?
Il va demander à jouer toutes ces finales là-bas.
Ouais, faut jouer tous les matchs de l'équipe de France là-bas.
Avec la FIFA, tout est possible.
Tu m'étonnes.
Bon, en tout cas, c'était un petit clin d'œil parce que le temps passe vite, n'est-ce pas, les amis ? C'est vrai que quand on y pense, cette finale.
Ah, c'est vrai.
On l'a tous.
À l'époque, j'avais 41 ans à l'époque.
Et plus de cheveux.
Et plus de cheveux. Ah oui, beaucoup plus long.
Plus long.
Moi, j'avais passé mon bac là-bas. Je m'en rappelle parfaitement.
Non, mais en tout cas, le temps passe. C'était il y a 2 ans et c'est un petit clin d'œil quand même à une émotion qui a été mondiale, hein, même si c'est Messi et les siens qui l'ont emporté.
Ah bah, que Messi gagne aussi, ça touche aussi pas mal de gens.
Cette partie-là, on l'a oublié, mais
oui, nous on oublie. Nous, on se souvient des 3 buts de Kylian.
Ah oui.
Avant de partir vers outre-Atlantique, les amis, rendez-vous sur RFI tout à l'heure. N'oubliez pas, dans Afrique Soir, n'oubliez pas d'être à l'antenne. 17h30, temps universel, 19h30, heure de Paris, il y aura la diffusion d'un entretien exclusif avec Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, qui s'est entretenu avec Christophe Boisbouvier. Soyez donc au rendez-vous. On continue donc dans Radio Foot, direction le Canada.
De nouvelles révélations seraient à l'origine de cette sanction.
Effectivement, je précise que c'est Canada Soccer qui a d'abord infligé la suspension. Le Comité olympique canadien emboîte le pas. Plusieurs sources, sans les identifier, qui confirment l'utilisation de drones par l'équipe canadienne, tant masculine que féminine, pour espionner les équipes adverses. C'est une pratique courante, affirme-t-il. Il a des témoins. C'est une pratique répétée qui a cours depuis des années, avant même la conquête de l'or olympique à Tokyo.
Le football canadien, le soccer, comme on dit là-bas, si près des États-Unis, hein, confronté à ces démons, à de mauvaises pratiques en tout cas, anti-éthiques et qui se répètent. Ce qui fait dire d'ailleurs à certains confrères canadiens qu'il s'agirait du plus grand scandale, ou presque, du sport de ce géant d'Amérique du Nord. Souvenons-nous, cet été à Paris, de cette analyste, alors c'était pendant les Jeux Olympiques, cette analyste tactique au service de la sélection canadienne féminine, pris la main dans le sac, en train d'espionner les futurs adversaires, les Néo-Zélandaises, grâce à un drone, vous avez entendu, hein, ces petits appareils qui font un bruit
ici.
Ils
font plus de bruit maintenant, c'est pour ça.
Le petit engin, en tout cas, avait survolé le terrain d'entraînement avant d'être récupéré dans les bois, mais deux policiers français étaient là aussi. Alors, eux, ils ont arrêté l'analyste, non pas parce que c'était illégal d'espionner, mais illégal de se servir d'un drone. Eu égard à la loi française, ils avaient été prévenus. Ensuite, eh bien, sont tombées des sanctions et surtout une enquête sur cette pratique, parce que quand même, la fédération là-bas qu'on appelle la Soccer Canada, eh bien, elle se rend compte quand même qu'il y a un problème. Et nous allons tout de suite en parler avec Romain Chuet, qui est notre alors, ancien collègue ici à RFI, mais surtout passé à Radio-Canada, où il mène l'enquête. Bonjour Romain.
Salut Annie, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être là, Romain. Alors d'abord, Romain, il y a eu des sanctions qui sont tombées, et notamment contre la sélectionneur, il n'y a pas si longtemps que ça, sélectionneur et quelques membres du staff, pour attitude anti-éthique.
En fait, la sélectionneuse, c'est Bev Pritzman, qui est arrivée en 2020. Elle a donc conquis l'or olympique en 2021. Elle a été suspendue directement après les Jeux olympiques durant un an, y compris son adjointe Jasmine Mander, et y compris donc l'analyste qui a espionné, qui s'est fait prendre en fait la main dans le sac par les policiers français à Saint-Étienne. C'est Joël Lombardi, suspendu également un an. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une grande enquête pour découvrir finalement que cette pratique a cours finalement depuis une dizaine d'années. Et la sélectionneuse, en fait, ce que Canada Soccer a annoncé, c'est que la sélectionneuse Bev Pritzman ne sera pas de retour. Elle avait encore un contrat de 3 ans jusqu'en 2027. On ne sait pas si elle a été licenciée, si elle a démissionné, ou, vous le savez bien, ou si elle a été forcée à démissionner avec un accord financier. Mais effectivement, c'est le cas. Elle ne sera plus de retour. Mais il y a d'autres personnes encore, parce que c'est très nébuleux, cette histoire-là. Tu l'as dit, Annie, c'est effectivement le plus grand scandale du sport en Amérique du Nord, en tout cas au Canada, parce que l'espionnage, en fait, c'est inscrit dans la culture canadienne. Et en fait, tout le monde a l'image du Canada qui est un petit peu le petit gentil que tout le monde apprécie.
Exactement.
Mais en fait, le Canada,
bientôt 51e état des États-Unis,
espionne. On verra ça. Mais en tout cas, le Canada espionne ses adversaires depuis une dizaine d'années. D'autres pays l'ont fait. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se cacher les yeux. Mais c'est une pratique qui a cours et chez les hommes et chez les femmes depuis une dizaine d'années.
Alors justement, par exemple, Hervé, à quoi ça sert d'aller espionner avec un drone ?
Ah ben, de connaître déjà le système tactique, les joueurs qui à première vue vont jouer. Alors juste, j'ai une question, Romain, à te poser. C'est un espionnage durant la semaine d'entraînement ou la veille des matchs ? La veille du match ?
C'est un espionnage qui a commencé pour les Jeux Olympiques, c'était le 22 juillet, 5 jours avant. De tout ce qu'on a entendu concernant l'espionnage canadien, ça pouvait se faire la veille des matchs.
Oui,
et tu sais, Hervé, dans la CONCACAF, par exemple, il n'y a pas beaucoup de sécurité autour. On fait un petit peu ce qu'on veut. Donc, quand le Canada, par exemple, joue au Panama, le Canada connaît très bien ces endroits-là et va se mettre un petit peu plus loin et va aller espionner, va lancer un drone. C'est ce qui s'est passé au Canada, c'est ce qui s'est passé au Mexique, c'est ce qui s'est passé en Floride. Ça s'est passé aussi sur une petite île. Je ne sais pas si vous connaissez cette île-là, c'est dans les Caraïbes, c'est Saint-Christophe. C'est une île qui est 141e au classement FIFA. Et ben, le Canada, John Herdman, avec l'équipe masculine, a espionné Saint-Christophe la veille d'un match entre Canada et Saint-Christophe.
Ils ont pas beaucoup.
On peut imaginer que ce n'est pas une grande nation du foot qu'on a espionné à ce moment-là.
Alors, juste pour indiquer à nos auditeurs, à quoi ça sert d'aller espionner avec un drone, Eric ?
Ouais, alors là si c'est basé, comme le disait Hervé, sur la veille de match, c'est parce que la veille de match, il y a la mise en place en général des équipes. Pour préparer c'est le dernier entraînement avant le match. Donc,
avec
du coup, on fait les coups de pied arrêtés, on fait la mise en place. Et donc, du coup, on a vraiment une grande indication de ce qui va se passer le lendemain. C'est pour ça que, donc, du choix des joueurs, évidemment. Et, mais après, c'est ce que je disais là. Je dis, mais de faire des trucs comme ça, parce que même si tu as ça, ça ne te garantit pas de gagner les matchs derrière. Donc, je me dis qu'il y a quand même.
Le problème, c'est
qu'elle gagne. Il n'y a quand même pas beaucoup de.
Saint-Christophe,
il n'y a quand même pas beaucoup de confiance. Ils n'ont quand même pas beaucoup de confiance en leur. en leur système ou leur façon de fonctionner bah, sans
si
aller,
un
sans aller
chercher.
Mais ça incroyable. Se fait beaucoup, ça se fait beaucoup en club, hein, en revanche. Hein. Ça
se eh ben, alors, ça on se souvient
pas
tous.
Par des drones, hein. Pas par des drones.
Hein. On se souvient ouais, tous de Bielsa.
Bielsa avec Leeds.
Bielsa avec Leeds. Alors, on a cherché tout à l'heure, Bielsa avait juste eu une amende de la part de la Fédération anglaise de football.
C'était défendu de façon complètement abracadabrantesque.
À la Bielsa, quoi.
À la Bielsa, un peu nébuleux.
Pendant 2 heures à expliquer. J'aurais une question à poser à Romain.
Allez-y.
Bonjour Romain, il y a une chose qui m'étonne, c'est cet espionnage, bon, allez, je dirais quasiment industriel, enfin bon, ça remonte à quand même pas longtemps. Et c'est étonnant, c'est que ça apparaît à une période où le football canadien, aussi bien chez les filles que chez les garçons, est en plein progrès. Pourquoi diable aller espionner des adversaires alors que les deux équipes, filles et garçons, sont en progrès?
Alors,
j'arrive pas à comprendre.
J'ajouterai quelque chose, Romain, pour vous aider et pour cadrer. C'est qu'il y a une nouvelle direction de leur fédération à eux, de Canadian Soccer, actuellement depuis quelques mois. Et surtout, ils ont eu le courage, n'est-ce pas, Romain, de demander une enquête sur ces pratiques et une enquête à un cabinet privé.
En fait, Annie, je vais mettre des petits guillemets sur ce que tu viens de dire. C'est le gouvernement qui a demandé à ce que Canada Soccer fasse une enquête. Donc, on a demandé à un tiers indépendant de faire une enquête. Mais pour revenir sur la question, oui, le Canada et l'équipe masculine maintenant performent très bien et pourraient devenir peut-être en 2026 l'une des équipes les plus emballantes à suivre.
On les a vus à la Copa América. À
Copa América,
ils sont
arrivés en demi-finale. Ils n'ont pas été loin de battre l'Argentine. C'est vraiment une équipe qui est en devenir, qui est enthousiasmante, etc. Mais cet espionnage a commencé quand l'équipe masculine était un petit peu dans les bas-fonds du football mondial. C'est John Herdman qui a commencé ça. Est-ce que ça les a aidés? Il y a une génération dorée, en tout cas, qui est là au Canada depuis longtemps. Chez les filles, ça a commencé en 2012 avec une médaille de bronze aux Jeux de Londres, une médaille de bronze ensuite au Brésil en 2016, puis la médaille d'or à Tokyo. Mais ce n'est pas forcément que ça les a aidés, mais c'est surtout que c'est une culture qui a été instaurée par des entraîneurs. C'est de la pression qui a été mise sur des entraîneurs adjoints. Est-ce que les joueurs et joueuses étaient au courant? Plusieurs m'ont dit, il ne faut pas être naïf quand on nous présente une vidéo la veille d'un match et qu'on voit des images de drones sur la tactique. Certains joueurs le savaient ou s'en doutaient, mais vous le savez tous là autour de la table que ce n'est pas les joueurs qui vont aller dénoncer leur entraîneur ni l'entraîneur adjoint. Ils veulent continuer évidemment d'être dans la sélection. Mais est-ce que ça a apporté des choses aux entraîneurs adjoints pour effectivement progresser, battre? On peut penser à Tokyo, par exemple. À Tokyo, les filles obtiennent la médaille d'or, il y a une séance de tir au but. Est-ce que, justement, on a espionné les adversaires, justement, les tirs au but, pour voir comment... Voilà, là, on se dit que finalement, toutes ces victoires-là sont un petit peu brouillées.
Et justement, ce qui est d'autant plus difficile et compliqué pour se défendre de Canada Soccer, Romain, c'est que finalement, si ça fait une dizaine d'années, le Britannique, donc John Herdman, qui dirigeait la sélection féminine, où ils obtiennent en 2011 et 2016 donc des médailles olympiques, son adjointe était celle qui ensuite obtient la médaille d'or à Tokyo en 2021, avec la sélection féminine. Donc, il y a une continuité dans cette pratique.
C'est exactement ça. Il y a une continuité, il y a une culture. On nous a dit que c'était obsessionnel. Il y a des personnes qui, on a récupéré des courriels, des emails d'employés qui se plaignaient justement qu'on leur mettait la pression d'aller espionner. Bev Pritzman, par exemple, a fait licencier des adjoints qui ne voulait pas suivre, entre guillemets, ce rituel-là d'espionner des gens. Donc, il y a vraiment une culture qui a été mise en place au Canada. Et ce qui est assez étonnant, c'est que maintenant, les dirigeants font comme s'ils découvraient tout ça. Mais les ressources humaines de Canada Soccer étaient au courant. C'est ce qu'on a découvert dans notre enquête. Certains dirigeants étaient au courant. Il y a même eu des rapports qui ont été faits en interne, mais qui n'ont jamais été publiés. Tout ce qu'on attend de voir maintenant, c'est de savoir si la FIFA va intervenir. Parce que la FIFA, après les Jeux Olympiques, a fait un rapport disant que peut-être qu'il y aura d'autres sanctions à venir. Mais pour l'instant, moi, j'ai posé des questions à la FIFA. On n'obtient aucune réponse. Mais là encore, Annie, on a quelques indices. Pourquoi est-ce qu'on n'obtient pas beaucoup de réponses? Parce qu'à la FIFA, actuellement, le numéro 2, c'est l'actuel patron de la CONCACAF. C'est un Canadien, c'est Victor Montagliani. C'est l'ancien président de Canada Soccer. Et c'est lui aussi qui, selon nos sources, a mis en place un petit peu ce qu'on appelle une culture toxique au sein de Canada Soccer. C'est lui qui a embauché John Herdman. Donc, on peut peut-être supposer que certains, en tout cas, ont intérêt à cacher certaines affaires.
Mais c'est une pratique systémique, en fait. C'est ça, le mot, c'est systémique.
Oui, mais c'est incroyable. Bravo hein, pour l'enquête, déjà, parce que c'est un sacré boulot. Et c'est absolument stupéfiant. Parce qu'il faut savoir qu'en club, ça se faisait tout le temps. Quand vous étiez en Ligue des Champions, par exemple, quand vous alliez chez l'adversaire, l'entraînement de veille de
au
match,
stade.
Au stade, évidemment que dans les bureaux, il y a à peu près tout le monde pour regarder
le
comment s'entraînait
tiens.
L'adversaire de l'équipe. Mais là, c'est complètement différent. C'est encore quelque chose de systématisé partout. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'on soit capable même d'envoyer le drone n'importe où.
C'est de la technologie, hein.
Oui, mais enfin, à un moment, ça peut se voir aussi, parce qu'un drone, ça fait un petit peu de bruit quand même. C'est pas non plus
pas
quelque chose qui vient en stationnaire au-dessus d'un entraînement. Vous pouvez vous poser
alors,
des questions, non,
Romain, le Canada, n'oublions pas, en plus de tout ça, mais on comprend donc ses liens privilégiés avec la FIFA, ils accueilleront la prochaine Coupe du Monde en 2026. Donc, est-ce que la
FIFA... Ils vont pas le retirer, je crois pas.
va sévir avant. Mais la surtout, France, est-ce que ça jette pas quand même un peu de discrédit sur tout ce qu'ont obtenu ces sélections et même sur ce John Herdman qui lui entraîne maintenant Toronto FC qui est j'ai regardé je crois qu'ils sont 13e ou 11e de MLS cette saison.
Mais en fait John Herdman vient de partir du Toronto FC. Officiellement il a démissionné, il y a une énorme pression autour de lui. Je vais vous raconter une petite histoire. En juillet, John Herdman a été questionné par des journalistes à Toronto parce que la MLS poursuit quand il y a la Coupe du Monde, donc au mois de juillet, il y avait encore la MLS, il y a le scandale aux Jeux Olympiques, et John Herdman est questionné, et on lui demande, est-ce qu'il y a quand même des gens qui pensent que vous avez participé à ça avant d'entraîner Toronto FC? La réponse de John Herdman est assez fantastique. Il a répondu, lorsque j'ai participé aux Jeux Olympiques et à la Coupe du Monde, je n'ai jamais espionné ou utilisé un drone. Lisez entre les lignes, évidemment, de tout ça. Il faut savoir que John Herdman, à ce moment-là, avait dit « Si Canada Soccer veut m'interroger, si je peux aider à participer à une enquête, je le ferai volontiers. » John Herdman a refusé de participer à l'enquête indépendante sur cet espionnage, a refusé de répondre à nos questions. Et évidemment, pour l'instant, il n'a plus de club. Et on peut imaginer que ça serait quand même extrêmement compliqué au niveau du football nord-américain de retrouver, évidemment, un employeur avec toutes ces histoires-là, parce que même des histoires sont sorties, des témoignages qu'on a pu récupérer nous laissent entendre qu'avec le Toronto FC, il a également utilisé des drones pour espionner ses adversaires de la MLS. Mmh,
un peu comme Bielsa, donc. Mais en pire. En tout cas, sachez, les amis, que Romain Chouet est en train de préparer un documentaire télé qui sera diffusé le 9
janvier. Filmé avec des drones.
Avec des drones. Et pour revenir à la question d'Hervé, avant, Hervé disait on voit l'entraînement avec un drone. En fait, un drone, j'en utilise pour justement nos tournages. On peut être à 200 mètres et avoir une vision extrêmement bonne du terrain. On n'a pas besoin d'être
au-dessus. Parce que moi, je n'ai jamais espionné personne. Même ma femme, jamais.
Donc, toutes les vidéos que tu as sur ton ordinateur, tu les effaces, Hervé.
En tout cas, ça sera donc...
Sur quelle chaîne
Radio-Télé-Canada, bien sûr.
Ah, okay.
On guettera les répercussions de ce documentaire. On essaiera même de le regarder. Merci mille fois, Romain. Et peut-être que vous aurez réussi à parcourir. Il me disait, Romain, il y a 400 pages du rapport qui ont été faites par ce cabinet privé. Et il y a un résumé de 6 pages.
Oui, donc, mais ils n'avaient pas beaucoup de papier.
Il cherche les 388 pages ou 14 pages, Romain.
Mais toutes ces informations, Annie, on les a déjà, nous.
Vous avez des bonnes informations.
Il n'a pas pris de vacances depuis 2 mois. Faut dire. Il lit depuis 2 ans. Pardon.
Merci beaucoup, Romain, de nous avoir éclairé sur ce football canadien qui, effectivement, a un visage de gentil.
C'est incroyable. Là, maintenant, je suis en train de faire en relation. Est-ce que ça les a, en effet, pas aidés à progresser comme ils ont progressé?
Parce que c'est avec ce sélectionneur chez les masculins qu'ils se qualifient pour la dernière Coupe du Monde en 2022. Ça leur était pas arrivé depuis 1986.
Sur les pénaltys,
maintenant sur le reste,
enquête dans SoFoot d'ici peu, vous verrez. C'est la fin de ce Radio Foot International. Les amis, demain, c'est la dernière édition 2024 Café des Sports.
Oh là.
Donc, n'oubliez pas vos cartons et notamment vos cartons de l'année. Qu'est-ce qui vous a plu, la personne, l'événement? Et les filles, n'oubliez pas de nous envoyer des cartons. Quand c'est vous, on les passe toujours. Merci les amis et à demain.
Salut.